C'est exactement le message de la Bible avec quelques, comment faut dire ça, pour rendre ça un peu plus vivant. Alors là, il y a un PowerPoint qui va bientôt apparaître, mais on va commencer sans. On a suivi la passion de Jésus dans l'évangile selon Marc, et on arrive maintenant à la fin de l'évangile, le dernier chapitre, là où les choses se passent, là où Jésus ressuscite. Et ça commence par trois femmes. Chez Marc, les premières personnes à rencontrer, à voir la résurrection sont des femmes, trois femmes. Trois femmes qui ont prévu d'aller embaumer le corps de Jésus avec des aromates qui sentent bon. C'est une manière d'avancer dans leur deuil, de dire au revoir à celui qu'elles aimaient. Aujourd'hui, on irait mettre des fleurs sur la tombe d'une personne fraîchement enterrée. Les trois femmes achètent le matériel le soir, à la fin du Shabbat. Le Shabbat se termine quand le soleil se couche. Donc, il fait nuit quand elles achètent le matériel. Et elles n'ont pas trop envie d'aller au cimetière la nuit, ce que je peux comprendre. Déjà en tant que femme, en plus, il n'y a pas de police à cette époque. Alors, elles y vont le lendemain matin, tôt le dimanche matin. Une des trois femmes, Marie de Magdala, elle a assisté à l'enterrement. Donc, elle sait où se trouve la tombe de Jésus. Magnifique. Alors, j'allume et je... Ah, voilà. Il y a le texte biblique derrière moi. Vous n'êtes pas obligé de le lire. C'est si vous voulez vous rappeler de quoi je parle. Vous pouvez, sinon vous pouvez l'ignorer. Marc, oui, l'évangile selon Marc. Marc, chapitre 16. Ah, je vais peut-être mal modifier le PowerPoint. Bref. Donc, Marie Magdala, elle a vu où est enterré le corps de Jésus, elle sait où aller. Elle sait aussi que devant la tombe, il y a un insurmontable rocher, beaucoup trop grand pour qu'elle puisse l'ouvrir elle-même. Ça va être compliqué. Et pourtant, ces femmes se mettent en tête d'y aller de bon matin, sans avoir un jeune homme bien musclé pour les accompagner. Alors, on ne sait pas si c'est parce que ces femmes étaient pressées ou bien si c'est parce que les jeunes hommes musclés, ils étaient plutôt d'humeur à rester enfermés avec les disciples parce qu'ils avaient un peu la trouille quant à leur avenir. Les trois femmes y vont quand même au tombeau. Quel courage, bravo. Et quand elles arrivent, un premier choc. Hein, on l'a vu, la pierre a été roulée. Ça, c'est louche. Il s'est passé quelque chose. Elles ne se laissent pas démonter, elles sont courageuses. Elles entrent dans le tombeau. Je ne sais pas si j'aurais osé, moi. Elles entrent dans le tombeau et là, il y a un mec en blanc. Et ce n'est pas un infirmier de Malévo. Le mec en blanc, c'est un ange. Et ça, elles le comprennent tout de suite. Comme elles connaissent les Écritures de l'Ancien Testament. Il y a un peu de contexte. Dans l'Ancien Testament, voir un ange, c'est presque voir Dieu. Et dans l'Ancien Testament, voir Dieu, c'est un truc mortel. Donc, quand elles voient un ange, elles ont la trouille, évidemment. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans la Bible, un peu chaque fois que les anges se présentent à des humains, ils commencent par dire « N'ayez pas peur !» D'autre part, ce qui leur fait un sacré choc à ces trois dames, c'est que ce n'est pas vraiment la personne qu'elles s'attendaient à voir. Celui-là, il est bien vivant et ce n'est pas le Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Et je crois, là, il y a un point important. Elles sont venues chercher l'homme qui était mort. Le Jésus, celui qui a grandi à Nazareth et qui est bien mort. Alors elles sont aimantes, elles sont attentionnées, elles sont dévouées, elles sont respectueuses. Elles sont soucieuses de faire le bien pour Jésus, exactement comme certains chrétiens aujourd'hui, peut-être même moi aussi. Mais elles viennent pour l'homme Jésus, pas pour le Fils de Dieu qui a fait des miracles et qui a annoncé sa résurrection. Si elles étaient venues pour le Fils de Dieu qui a annoncé sa résurrection, plutôt que des aromates, elles seraient peut-être venues avec des croissants, je ne sais pas. Trois femmes sont venues pleines de bonne volonté pour accomplir un projet qui est bon, embaumé, un projet qui est raisonnable et surtout un projet qui est complètement issu des raisonnements humains. Et là, il se trouve que Dieu, il avait un peu d'autres projets en tête. Et nous, parfois, on a nos projets personnels et on ignore les promesses de Dieu et on fait nos propres projets et Dieu vient s'immiscer. Il vient nous bousculer. Et là, la question, c'est est-ce qu'on va se laisser bousculer par Dieu pour entrer dans le plan de Dieu, même quand il est différent du nôtre ? Alors, les anglophones ont un jeu de mots que j'aime bien. Ils disent, il y a les good ideas et les God ideas. Ça veut dire les bonnes idées et les idées de Dieu. Il n'y a qu'une lettre de différence en anglais. Les bonnes idées, les good ideas, c'est des idées qui sont vraiment bonnes. On se dit, ouais, on va faire ça, c'est selon la Bible, c'est super. Et les God ideas, les idées de Dieu, c'est ce que Dieu souhaite juste là, maintenant, pour nous, avec nous. Et souvent, c'est les mêmes. Et des fois, ce n'est pas exactement les mêmes. Les femmes qui viennent embaumer le corps de Jésus, c'est une excellente idée. C'est vraiment ce qu'un bon chrétien ferait. Mais ce jour-là, Dieu, il avait un autre plan. Alors, restons à l'écoute de Dieu. Restons à l'écoute de Dieu et laissons-nous bousculer quand Dieu a un plan un peu différent qui vient s'immiscer dans nos plans. Le plan de Dieu, ce matin de Pâques, je vais y revenir plus tard. Mais pour le moment, restons sur le texte biblique. Les femmes sont bouleversées par ce qu'elles ont vu, et dans un premier temps, elles ne disent rien à personne. Et selon certains très vieux manuscrits de la Bible, le récit de Marc s'arrête ici. Voilà, on sait qu'il est ressuscité, que l'histoire des disciples de Jésus continuera, d'abord en Galilée, puis partout dans le monde, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tout. Et dans d'autres très vieux manuscrits de la Bible, qui ont été rédigés peut-être 50 ans après la première édition, il y a un extra, un petit extra comme pour préciser des éléments à propos de la résurrection. D'où le fait que les versets suivants, dans beaucoup de Bibles, ils commencent par un crochet. Ils sont entrecrochés. Alors on voit d'abord que Jésus ressuscité se présente à Marie de Magdala. Mais quand elle en parle, on ne la croit pas. Puis, Jésus ressuscité se présente à deux disciples, peut-être ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, on ne sait pas. Mais eux non plus, quand ils racontent, on ne les croit pas. Jésus doit apparaître personnellement à tous ses disciples, tous les 12, pour qu'ils se mettent à croire. Et croire, ça commence par faire confiance que c'est vrai. Alors, est-ce qu'on pourrait pas croire que cette résurrection, c'est un coup monté et que ça n'a pas vraiment eu lieu ? Par exemple, on pourrait faire l'hypothèse que Jésus n'était pas vraiment mort sur la croix, qu'il était un peu dans le coma puis qu'il s'est réveillé après. C'est une jolie hypothèse, mais elle ne tient pas trop la route parce qu'on sait que Jésus a été tué par des tueurs professionnels qui ont consciencieusement fait leur job. On lit ça dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Jean aussi. Il y a des détails précis. Est-ce qu'on pourrait se dire, si on voudrait que la résurrection n'ait pas eu lieu, on pourrait se dire que le corps a été volé ? Mais volé par qui ? S'il a été volé par les ennemis de Jésus, alors ça ne fait aucun sens. Et s'ils avaient eu le corps de Jésus sous la main, ils l'auraient bien montré à tout le monde pour bien montrer que Jésus n'est pas ressuscité. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc ils n'avaient pas le corps de Jésus, donc ils ne l'ont pas volé. Ou le corps aurait pu être volé par les disciples de Jésus, peut-être, pour faire croire, mais... Si les disciples l'avaient fait, ils auraient su que c'était un mensonge, toute cette histoire. Ils n'auraient pas accepté de mourir en martyr pour un mensonge. On accepte de mourir seulement pour quelque chose qu'on croit être fondamentalement vrai et absolument important. Donc on a des raisons objectives de croire que la résurrection, c'est un événement historique réel. Et si on étudie à fond cette question, vraiment en prenant bien au sérieux la question, il va apparaître que c'est plus facile de croire que la résurrection de Jésus a eu lieu que de croire que c'est un mensonge. Est-ce que je fais confiance à Marie de Magdala ? Est-ce que je fais confiance aux deux disciples d'Emmaüs qui racontent la résurrection ? Et aux 11 apôtres, est-ce que je leur fais confiance ? À Marc l'évangéliste ? Et aux nombreux rédacteurs du Nouveau Testament qui témoignent tous du même événement de la résurrection. Et à 2000 ans d'histoire de l'Église qui a fidèlement retranscrit ces témoignages. Est-ce que je fais confiance ? C'est-à-dire, est-ce que je crois que c'est vrai ? Mais croire, ça ne s'arrête pas là. Si j'ai regardé la météo, que je vois qu'il va pleuvoir très fort et que je sors quand même me promener sans parapluie, alors vous pourrez me demander à raison si vraiment je fais confiance à la météo. Parfois, ça peut arriver qu'on croit, mais qu'on agit comme si on ne croyait pas. C'est étrange. Soit tu crois que c'est vrai, puis tu agis en conséquence, soit tu agis autrement parce que tu ne crois pas que c'est vrai. Ce que je crois, ça m'amène à tirer des conclusions pour ma vie. Et c'est aussi vrai de la résurrection. Et ça s'appelle avoir la foi. Je crois que Jésus est ressuscité et donc ça a des implications concrètes pour ma vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que ça change quelque chose dans ta vie personnelle? Les disciples ont eu besoin de temps pour croire. Paul a eu besoin de rencontrer Jésus en vision sur le chemin de Damas. D'autres ont cru spontanément. On a chacun notre chemin de foi. Dans l'évangile de Luc, un des brigands cloué sur la croix à côté de Jésus a décidé de lui faire confiance au dernier moment, juste avant de mourir. Et Jésus, il a fait quoi? Il lui a promis le paradis. Il n'est jamais trop tard pour commencer à croire et il n'est jamais trop tard pour adapter la façon dont je vis à ce que je crois. Regardons la dernière partie du récit. Jésus envoie ses disciples dans le monde. On le sait aussi par d'autres textes du Nouveau Testament. Le petit extra de l'évangile de Marc précise aussi ça. Celui qui croira et sera baptisé, là, croire est l'élément essentiel de cette phrase. Baptiser, c'est être né de nouveau. Et pour être né de nouveau, pour faire partie de la famille de Jésus. Et ça, je peux éventuellement le manifester publiquement, ce baptême au moyen de l'eau du baptême, ou je peux le manifester publiquement en m'enroulant comme soldat de l'armée du salut. Pour ça non plus, il n'est jamais trop tard. Les versets 17 et 18 nous parlent de différents miracles liés à la foi en Jésus-Christ. Alors, il se trouve que dans toute la Bible, certaines des choses ici ne se trouvent que dans ces versets-là. Alors, quand une chose se trouve dans un seul verset de la Bible, on ne peut pas en tirer une doctrine ou un enseignement. Donc, n'essayez pas de prendre des serpents dans la main, n'est-ce pas? N'essayez pas de boire du poison, c'est dangereux. Et on peut aussi avoir un argument théologique pour ça. Jésus, lors de la tentation au désert, le diable lui dit « Hé, tu pourrais sauter du toit de cet immeuble-là, parce que c'est écrit dans la Bible que les anges de Dieu te porteront. » Et Jésus lui rétorque qu'on ne force pas Dieu à faire un miracle pour voler à notre secours. Jésus nous enseignait ça. C'est aussi vrai pour prendre des serpents dans les mains ou boire du poison. Le récit nous dit ensuite que Jésus monte à la droite de Dieu. Donc on a une image d'un bout de la Trinité, n'est-ce pas? Il y a des trônes côte à côte et Jésus règne avec Dieu le Père. Ensemble, ils règnent. Et finalement, la dernière phrase, un petit épilogue, comme un résumé en une phrase des Actes des Apôtres, les disciples s'en vont de par le monde et ils parlent. Ils parlent de quoi? Ils parlent de ce qu'ils ont vécu, de ce qui est important pour eux. Ils parlent de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Bonne nouvelle, ça se dit évangile en grec. Ils parlent autour d'eux, ils annoncent l'évangile. Et Dieu, il fait quoi? Il travaille avec eux. Il valide leurs paroles par des signes. Qu'est-ce que c'est des signes? Les signes, ça veut dire des miracles. Les miracles, ce n'est pas simplement des prodiges pour amuser la galerie. Et les miracles, c'est des attestations que l'enseignement est vrai. De la même manière que la résurrection, elle atteste que l'enseignement de Jésus est valable et juste, et que ce n'est pas juste un blabla de charlatan. Dieu fait des miracles pour valider que l'évangile que nous prêchons, il est vrai et il est bon. Les Actes des Apôtres, les lettres de Paul et le reste du Nouveau Testament nous apprennent que Dieu a effectivement continué à confirmer l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle par des miracles. Et dans toute l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui, Dieu accomplit des miracles. Certains miracles sont juste des coïncidences heureuses. Ça tombe bien, chouette. Et d'autres miracles sont ne trouvent pas d'explication rationnelle. On ne peut pas expliquer, c'est arrivé. Mais tous ces éléments sont des miracles. J'ai entendu plusieurs personnes à Sierre qui m'ont raconté des miracles dans leur vie, des miracles de guérison. Des miracles, il y en a aujourd'hui encore. Alléluia. Alors, n'ayons pas peur de témoigner ce que nous croyons, parce que c'est vrai, parce que c'est une bonne nouvelle qui peut changer des vies. Et moi, quand j'ai une bonne nouvelle à annoncer, j'aime bien l'annoncer à quelqu'un. J'aime bien la partager avec la personne à qui elle est destinée. Et Dieu, il est où ? Il est en haut, il est en bas, il est à gauche, il est à droite, il est devant, il est derrière, il est en moi. Il est avec nous. Il est précisément en nous, en train de travailler avec nous en ce moment. Il y a tous les autres moments aussi. Est-ce que j'en suis conscient que Dieu, il est avec moi ? Quand je partage la bonne nouvelle, est-ce que je suis conscient que Dieu, il est avec moi à chaque instant ? Aujourd'hui, c'est Pâques, j'aimerais nous encourager. Jésus, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité, il est vivant. Dieu est avec nous et il ne se tourne pas les pouces. On a traversé le texte, mais je n'ai pas tout à fait fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu avait un autre projet en tête que le projet de ces trois femmes. Et c'est important que je précise un peu ce projet de Dieu. Ce Jésus qui a été mis au tombeau, il se trouve que c'est une partie de Dieu lui-même. Jésus est une des trois personnes qui composent le Dieu unique et trinitaire. Il est assis à la droite de Dieu pour régner avec lui. Et Jésus n'a pas donné sa vie juste pour le plaisir de souffrir sur une croix, d'être enterré et embaumé avec des aromates bio qui sentent bon. Jésus, il est venu sur terre précisément pour cette mission-là. Mourir sur la croix et ensuite se relever d'entre les morts. Alors, mourir sur la croix, on en a parlé ces dernières semaines, surtout la semaine passée. Jésus a pris sur lui nos péchés et il est mort avec. Donc, à travers Jésus, mes péchés me sont enlevés. Ils sont morts à la croix. Et si je choisis de les lui remettre, ils sont enlevés. Ça, c'est cool, c'est merveilleux. Et je me sens mieux. Mais si je m'arrête là, Jésus, il pourrait rester dans le tombeau. Parce que ce job-là, il a été fait. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a agendé la résurrection ? Oui, il l'a agendé. Hein. Jésus l'a annoncé à nombreuses reprises. Les prophètes l'ont annoncé. Jésus qui ressuscite, ça veut dire que mon sauveur, ce qui me sauve des bêtises, des péchés que je fais, ce n'est pas un concept théorique où il va falloir que je dois l'appliquer correctement dans ma vie. Ce qui me sauve, c'est un être vivant. C'est un être qui est vivant aujourd'hui encore. C'est Jésus le vivant qui me sauve. En ayant la victoire sur la mort, Jésus nous ouvre le chemin de la vie. Il est le premier vivant à aller à Dieu par ce chemin qui nous est ouvert. À sa suite, on va pouvoir aller au ciel parce que le chemin est ouvert. Alléluia. D'autre part, la résurrection, elle est aussi importante pour d'autres raisons. En ressuscitant, Jésus tient la promesse qu'il avait faite de ressusciter. C'est une promesse qui paraissait impossible à tenir. Qui peut promettre ça ? Mais lui, il l'a promis et il a réalisé sa promesse. Et s'il a réalisé cette promesse-là, ça veut dire que les autres promesses qu'il nous a faites, il va aussi les tenir. Notamment la promesse du pardon, la promesse de sa présence à nos côtés. Et ça veut dire aussi que ce qu'il a enseigné est vrai. La résurrection, c'est le label d'authenticité, hein, la preuve, je disais, que ce qu'il a dit est vrai. Ça veut dire aussi que s'il a promis que moi aussi, après ma mort, un jour, je ressusciterai, ben ça va arriver. Je peux avoir confiance que ça arrivera. Et enfin, la résurrection, ça veut dire que ce qu'il y a de mort en moi, vous savez, des fois, on est vivant corporellement, mais à l'intérieur du corps, du cœur, c'est tout sec, comme si on était mort. Ce qu'il y a de mort en moi, ça aussi, il peut le ressusciter. Jésus est ressuscité et pour moi, ça change tout. Et pour vous. J'aimerais vous laisser quelques secondes pour mesurer l'impact de cette résurrection dans vos vies. En fait, je vous invite à prendre un temps pour prier et méditer. Je vais remettre les questions d'avant. Je les affiche là. Est-ce que je me laisse bousculer par Dieu quand il m'invite à rejoindre son projet qui est peut-être un peu différent du mien? Est-ce que je suis conscient que Dieu, il est avec moi, à mes côtés, à chaque instant? Croire que la résurrection est vraie, croire que Jésus est ressuscité, comment est-ce que ça impacte ma vie? J'aimerais vous laisser quelques secondes pour réfléchir, méditer là-dessus.